Je pense qu'il y a des questions dans la salle. On vous apporte le micro. Pour les professeurs, quelle est la formation des professeurs ?
Alors, juste pour les professeurs, pas de formation initiale demandée. Simplement, nous avons un recrutement à profil. Donc, je reçois les enseignants et ils ont une année de probation. Donc, soit l'année se passe bien et on continue ensemble, soit bien, d'un côté comme de l'autre, on peut repartir, ils repartent sur leur poste d'origine.
Pas de formation spécifique.
Ensuite, par contre, voilà, s'ils le souhaitent, ils peuvent rentrer dans une formation spécifique, le 2CASH, qui a été renommé cette année. Et ils peuvent déjà en bénéficier avant s'ils le souhaitent.
Merci d'être synthétique dans vos questions et pareil dans vos réponses d'ailleurs, s'il vous plaît.
Synthétique. François Pilet, une AFAM à nouveau. Je ne sais pas si vous travaillez sur mesure ou en prêt-à-porter. Ce qui est sûr, c'est que vous travaillez dans la dentelle. Je suis membre du groupe de réflexion éthique et de la Fondation et je peux en témoigner. Voilà. Cela dit, je suis un peu choqué par ce que vous avez dit en disant que l'enseignement est un alibi pour les soins. Pour moi, d'après ce que vous avez dit, et dans mon esprit, il y a égalité de dignité des deux filières. Et je me demande si on ne pourrait pas renverser dans certains cas, je m'adresse en particulier à mon collègue, est-ce que dans certains cas, on ne pourrait pas renverser l'affirmation et dire que les soins sont aussi un alibi pour accepter l'école ? Et puis je suis quand même très frustré par rapport au titre de votre intervention, pardonnez-moi, je m'attendais à ce que vous parliez de l'articulation entre enseignement et famille.
On va essayer de vous répondre sur les deux. Un alibi pour les soins, ça fait écho à ce qui a été évoqué aussi de déstigmatisation. C'est très compliqué pour des familles d'accepter des soins dans la durée en milieu hospitalier. C'est souvent compliqué d'accepter l'entrée dans ce type de pratique, dans ce type de pathologie, dans ce type d'établissement. Et la présence des annexes pédagogiques permettent, dans certains cas, de déstigmatiser et d'accepter l'entrée dans ce parcours. Ça relève d'une expérience professionnelle, d'un vécu que tous nos médecins ont extrêmement fréquemment.
Alors, peut-être ai-je mal formulé, effectivement, mais les éléments de langage tout à l'heure, mais je ne voulais pas vous choquer ou vous vexer ou quoi que ce soit, mais là, en l'occurrence, nous sommes partenaires et nous avons des familles, il faut le reconnaître, qui ont des exigences envers leurs enfants, qui ont testé beaucoup de choses et pour qui s'afficher uniquement dans de la prise de soins est compliqué pour elles. Et donc, le fait de se dire que mon enfant ne vient pas forcément que pour des soins, mais aussi pour continuer ses études, est un alibi, en fait, pour rentrer dans nos cliniques. Voilà, c'était ainsi que je voulais formuler mon propos. Ensuite, sur votre partie, avec le lien avec les familles. Donc, le lien avec les familles se fait par l'intermédiaire du service, puisque au départ, le jeune est hospitalisé, et seulement ensuite, il vient au service études. Donc, le lien, on en a avec les familles, on fait des rencontres parents-professeurs, s'il le faut, on les reçoit tout à fait normalement, comme dans n'importe quel collège et lycée, mais toujours en lien avec le service médical, puisque nous n'avons pas forcément tous les éléments, voire même des fois, il faut protéger le patient qui est chez nous.
Monsieur.
Nous nous sommes censurés sur les sujets, puisqu'on avait un temps qui était plus contraint que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais on aurait pu rajouter un certain nombre de slides. Le professeur Godard a évoqué le fait que les familles étaient extrêmement présentes, y compris chez les patients. Enfin, tenir compte des familles est extrêmement présent dans nos prises en charge, y compris pour nos patients majeurs.
Merci pour les précisions.
Donc, Daniel Sechter, médecin des hôpitaux, spécialiste en psychiatrie générale. J'aurais deux points. Approche globale et intégrative, bravo et merci. Malheureusement, on a souvent des difficultés à avoir des places pour faire bénéficier des patients de ce soutien, de cette prise en charge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est, à mon sens, encore plus fondamental. C'est la question, j'essaye à chaque fois de faire une gymnastique pour faire un parallèle avec ce qu'il en est des soins somatiques par rapport justement à la déstigmatisation. La Fondation Santé des étudiants de France, elle est bien, les structures sont bien dédiées à des troubles d'origine psychique. Quand j'essaye de faire le parallèle, justement, vous allez me répondre oui ou non, j'essaie de faire le parallèle. Qu'en est-il si j'ai l'image d'une rupture, comme il y a eu la rupture à l'adolescence que nous a présentée Mme Godard, la rupture à l'adolescence, où la rupture à l'adolescence est un accident grave de la voie publique et je me trouve avec des troubles importants au niveau orthopédique, au niveau cognitif, et j'ai besoin de tout un temps de réadaptation somatique parallèlement à des études. Donc je voudrais faire le parallèle.
Alors vous répondez d'abord à la deuxième question, puis on vient à la première ensuite.
Sur les places, oui, malheureusement. Alors, il y a un nouvel établissement qui va s'ouvrir à Vitry-le-François en 2019, je crois. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est la Fondation Santé des étudiants de France n'est pas exclusivement réservée à des jeunes gens souffrant de troubles psychiatriques, puisqu'il y a de la médecine physique et réadaptation, et il y a du SSR. Donc il y a, par exemple, à Neufmoutier, c'est mixte. À Bouffémont aussi, ce qui n'est pas le cas de Dupré, où effectivement c'est une clinique psychiatrique. Donc il y a différents cas de figure. Il y a de toute façon dans les établissements psychiatriques des médecins généralistes pour l'accompagnement en termes de santé aussi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et une question qui a été posée, je n'ai pas répondu sur la question des chiffres. Une de mes missions à l'arrivée, puisque je suis arrivée récemment à la Fondation, c'est de faire des études de devenir et de pouvoir avoir des indicateurs sur le devenir et toutes les questions que vous posiez.
Alors, c'est Béatrice Borel, présidente de l'UNAFA.
Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Merci.
Alors, moi, j'ai vraiment noté avec satisfaction que vous aviez parlé des familles. Je trouvais que c'était un petit peu absent dans le discours cet après-midi. Et je voulais justement vous poser cette question par rapport au suivi. Je me suis sentie un peu frustrée. Vous avez présenté effectivement des situations de réussite. Pour moi, une entrée dans un ESAT, c'est aussi une réussite. Je suis d'accord avec vous. C'est comment, ce qui serait intéressant, parce que c'est de voir ce qu'ils deviennent, parce que c'est vrai qu'il y a des listes d'attente. Si on veut aussi être porte-parole de ce type d'établissement, d'ouverture de place, etc., il faut nous donner... Voilà, on est dans un domaine économique, médico-économique, et il faut nous donner des éléments.
Alors, je vais faire un appel. Si vous connaissez des fondations qui sont prêtes à nous soutenir pour développer ces recherches, qui ne sont pas de la recherche dure, c'est du mou, disent mes collègues qui font de la recherche scientifique, n'est-ce pas ? Eh bien, adressez-les-nous, parce qu'on cherche des moyens et on voudrait monter ce type de projet.
Y a-t-il d'autres questions ou d'autres témoignages ? Écoutez, on va vous remercier pour votre présentation particulièrement intéressante. Et vous aurez évidemment les conclusions de ces journées avec le résumé de votre présentation. On va
simplement peut-être une seule intervention juste avant que notre collègue se cale. L'intervention qui vient d'avoir lieu, je trouve, pose plusieurs questions. On a vu là un dispositif dédié aux étudiants, c'est tout à fait bien. On a vu une vocation régionale, c'est extrêmement important. Et on a vu aussi la mise en place d'une culture partagée avec l'éducation nationale, c'est suffisamment rare. Pour le pointer. La question que je pose à la réflexion, hein, c'est donc faudrait-il considérer dans ce contexte que les étudiants sont désormais à considérer comme une population spécifique et par voie, comme d'ailleurs d'autres publics, hein, dont on sait aujourd'hui qu'on les installe dans publics spécifiques, vous connaissez ça, et par voie de conséquence, donc être envisagés dans les diagnostics partagés, territoriaux de santé mentale, de manière systématique. Hein, puisque dès lors qu'on se penchera sur ce sujet, il faudra bien qu'on trouve des réponses et des solutions, notamment dans ce qui a été abordé comme articulation avec les autres acteurs du sanitaire et ailleurs, et aussi dans la question des comorbidités, qui est souvent extrêmement importante. Donc je suppose que la réponse est oui de la part des intervenants, mais je pense qu'à l'occasion de l'élaboration des projets territoriaux de santé mentale, peut-être faut-il donc se poser la question de ce public spécifique.